Le géant aux trois cheveux d'or. Il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec sa femme dans une petite chaumière. Dieu leur envoya un fils qu'ils reçurent avec du transport de joie. Mais sa mère ne l'embrassa pas longtemps. Elle mourut quelque temps après, heureuse de laisser à son mari un enfant pour le consoler. Le paysan pleura beaucoup et se mit fort en peine, car il était très embarrassé pour nourrir un bébé qui n'avait pas encore de dents et qui criait toute la journée. Mais une vieille femme du voisinage, qui passait pour être un peu sorcière, examina l'enfant et le rassura. « Votre fils, lui dit-elle, est né sous une heureuse étoile. Il est destiné à faire une grande fortune et à épouser la fille du roi. » Cette prédiction étonna beaucoup le pauvre paysan. Et les commères du pays ne se firent pas faute de la répéter. Cela excita la curiosité de quelques personnes. On voulut voir le bambin appelé à un si bel avenir. Et comme c'était un enfant superbe, on le comblait de caresses et de présents. Le père commençait à croire que la vieille ne l'avait pas trompé. Sur ces entrefaites, un grand équipage traversa la contrée et un seigneur, accompagné d'une suite nombreuse, s'arrêta toute une nuit dans le village. On ne manqua pas de lui raconter l'horoscope du fils du paysan. Le seigneur fronça le sourcil et se fit apporter l'enfant, qui marchait déjà tout seul. Il lui trouva la physionomie heureuse et demanda à son père s'il voulait le lui confier. Il promit de se charger de sa fortune et de le faire élever sous ses yeux. « Quand il sera grand, dit-il au paysan qui hésitait, je t'appellerai près de lui et tu ne quitteras plus. » Ces paroles, accompagnées d'une grosse somme d'argent, décidèrent le pauvre homme à remettre son fils aux mains de l'étranger. Ce dernier partit de grand matin et l'on n'en entendit plus parler pendant de longues années. Or ce seigneur n'était autre que le roi lui-même, qui voyageait dans ses états sans se faire connaître, afin de juger plus nettement de ce qui s'y passait. Quand il eut quitté le village, il se fit apporter l'enfant et l'enferma dans une cassette. Puis, comme il traversait une rivière rapide et profonde, il jeta la boîte dans l'eau en disant « Ce petit bonhomme-là ne sera jamais le mari de ma fille. » Après cette méchante action, il se remit tranquillement en route, car il n'avait pas la conscience très délicate. Cependant, la cassette flottait au gré des vents, descendait les courants, tournait au tourbillon, se heurtait aux rochers et secouait d'une belle manière l'enfant qu'elle contenait. Tantôt il criait comme un brûlé, tantôt il pleurait à chaudes larmes, tantôt il prenait le parti plus sage de s'endormir. La caisse était heureusement bien close, ce qui empêchait le bambin de se noyer. En revanche, il était fort gêné et étouffait notablement. La chose tournait à mal. Quand la cassette s'arrêta contre l'écluse d'un moulin, le meunier qui prenait l'air à sa fenêtre l'aperçut, descendit et l'attira à terre avec un grand croc. Quand il la vit si pesante, il crut qu'elle renfermait un trésor. Mais à peine eut-il fait sauter le couvercle qu'il aperçut un joli petit garçon qui lui tendait les bras. Il appela sa femme et tous deux remercièrent le ciel du présent qu'il leur renvoyait, car ils désiraient un enfant depuis de longues années. Le meunier l'appela Hermann en souvenir d'un oncle qu'il avait eu. Et le bébé devint l'enfant gâté de la famille. Près de 20 ans s'écoulèrent. Hermann devint un beau garçon, fier et vigoureux, adroit et hardi. Et le meunier bénissait le ciel d'avoir donné un tel appui à sa vieillesse. Il n'arriva qu'un jour, le roi, qui voyageait beaucoup, passa dans les environs, avec toute sa cour, et, pressé par la soif, il vint frapper à la porte du moulin. On le reçut avec toutes sortes de respect, et il regarda attentivement Hermann, qui lui servait à boire. « Ce jeune homme, dit-il, a une bonne physionomie. Que n'en faites-vous un soldat ?»« Votre majesté m'excusera, dit le meunier, mais je l'aime trop pour m'en séparer, quoiqu'il ne soit pas mon fils. » Le roi voulut avoir l'explication de ses paroles. Et sur le récit du meunier, il devina qu'Hermann était le même enfant qu'il avait cru noyé autrefois. Il n'en douta plus quand on lui eut apporté la cassette dans laquelle on l'avait trouvé. « Ce garçon me plaît, dit-il en déguisant un mauvais sourire. Je vais faire quelque chose pour lui. Sera-t-il bien porter une lettre à la reine ?»« À merveille, dit le meunier. Il est aux ordres de votre majesté. » Le roi expédia promptement un message et le remit au jeune homme qui partit sur le champ. Sa lettre contenait ces mots. « Madame, dès que le porteur vous arrivera, faites-le auxire et enterrez promptement. Que tout soit fini avant mon retour. Signé, moi, le roi. » Hermann fit diligence, car il avait à traverser une grande forêt et voulait en sortir avant la nuit. Mais au plus épais du bois, il entendit des gémissements étouffés qui semblaient sortir des broussailles. Il s'avança vers l'endroit d'où partaient des cris, et il aperçut une horrible vieille qui était tombée dans un piège creusé pour prendre les bêtes féroces. Elle tempêtait au fond de la fosse, d'où elle ne pouvait bouger, car elle s'était foulée le pied dans sa chute. Hermann ne balança pas à venir à son secours, et la tira de ce trou où elle risquait de périr avant peu. La vieille lui sauta au cou et l'embrassa tendrement. Politesse dont le jeune homme se serait fort bien passé, car il n'avait rien vu de plus laid que la bonne dame. Ses yeux enfoncés et chassieux destinaient une humidité malsaine. Son uniforme était pomponné de bubulettes cramoisies. Son menton de gala se relevait en pointe, et des deux côtés de sa bouche sortaient de grandes dents noirâtres. « Vous n'avez rien fait pour moi, mon cher fils, dit-elle au jeune homme, si vous ne me portez pas hors d'ici. Je suis incapable de marcher, et je serai mangée par les loups si vous m'abandonniez. » Hermann la rassura et la chargea sur ses épaules, en lui demandant de quel côté il fallait la conduire. Elle le guida par les sentiers les plus ardus de la forêt, jusqu'à une vaste clairière où elle le pria de s'arrêter. « Mon fils doit passer par ici, dit-elle, et je vais l'attendre. Partez vite, car j'aime autant que vous ne le rencontriez pas. Soyez sûr que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Elle l'embrassa encore, et Hermann se hâta de s'éloigner, car il n'avait pas bonne opinion du fils de la vieille. Mais elle lui avait fait faire tant de détours et de contre-marches qu'il ne sut pas retrouver son chemin. Il courut çà et là jusqu'à la nuit, et, harassé de fatigue, il se laissa tomber au pied d'un arbre où il s'endormit. Il était dans son premier sommeil quand une bande de voleurs passa près de lui. Ce n'étaient pas des bandits de la pire espèce, et ils avaient un reste d'honnêteté dans l'âme. La figure du jeune homme plut à leur chef, qui s'informa de ce qu'il avait dans ses poches. « Rien qu'un plic acheté, scellé du sceau royal, » dit quelqu'un qui fouillait le dormeur. « Oh oh !» dit le capitaine. « Serait-ce des affaires d'État ? Voyons la lettre. » Il la décacheta sans plus de façon, car un voleur ne se pique pas d'une grande délicatesse. Et il s'apitoya sur le sort du messager qu'on envoyait à la mort. Il prit sur lui de supprimer les ordres du roi et remplaça son billet par celui-ci, en imitant son écriture avec beaucoup d'habileté. « Madame, dès que le porteur vous arrivera, mariez-le promptement avec notre fille. Que tout soit fini avant mon retour. Signé, moi, le roi. » L'enveloppe fut proprement recachetée et les voleurs s'éloignèrent, en riant comme des bossus de leur espièglerie. Hermann ne s'aperçut pas de la substitution et le lendemain, il arriva à la cour et remit à la reine la lettre royale. Elle pensa tomber de haut en voyant ce que lui demandait le monarque. Mais il était si violent et si absolu qu'elle ne pensa pas à lui résister. Pendant qu'elle lisait, le jeune homme considérait la princesse qui venait d'entrer pour avoir des nouvelles de son père. Elle était très belle et très bien élevée. Et quand on lui apprit qu'on allait la marier, elle ne répondit que par une grande révérence. Hermann fut stupéfait quand la reine le pria de donner la main à la jeune fille pour la cérémonie. Toutefois, il s'empressa d'obéir, et comme elle le regarda en souriant, il s'estima le plus heureux des hommes. Les noces étaient à peine terminées qu'on annonça le roi qui se présenta brusquement pour savoir le motif des réjouissances publiques et des pétards qu'on tirait dans l'avenue du palais. Quand il apprit le mariage de sa fille, et qu'il vit que malgré ses ruses et sa méchanceté, les prédictions faites au fils du paysan s'étaient accomplies. Il entra dans une colère inouïe. La reine, tremblante, lui montra la lettre qu'Hermann lui avait remise, et celui-ci raconta qu'il avait passé la nuit dans la forêt avant d'arriver au palais. « C'était sans doute écrit, » dit le roi. Mais n'espérez pas que je vous accepte jamais pour gendre si vous ne me rapportez les 3 cheveux d'or du géant qui demeure dans la caverne enchantée. Je ne puis rompre votre mariage, mais si vous résistez à mes ordres, je vous envoie à l'armée et je mets ma fille au couvent. Cela suffit, dit Hermann. Je vais vous chercher les 3 cheveux d'or. Il partit après avoir embrassé sa femme. À la première ville qu'il traversa, un garde l'arrêta pour lui réclamer un droit de passage. « Je n'ai pas d'argent, » dit le jeune homme. « Alors, » répondit le soldat, « vous retournerez sur vos pas. Cependant, nous vous laisserons aller si vous pouvez nous dire pourquoi la fontaine du marché est tarie. L'eau nous fait grandement faute et nous vous récompenserons richement d'un bon conseil. » « Je vous promets de vous satisfaire, » dit Hermann, « mais seulement à mon retour, car j'ai besoin de réfléchir à ce que vous me demandez. » Le garde se concerta avec ses camarades et on lui laissa continuer sa route. À quelques lieues de là, il arriva aux portes d'un magnifique jardin et trouva une foule de villageois plongés dans la désolation. Il s'informa de la cause de leur tristesse. « Nous sommes étrangement malheureux, » répondirent-ils. « Nous avions pour héritage, au milieu de ce beau verger, un arbre qui portait des pommes d'or. Voici le printemps venu, et il ne pousse pas même une feuille. Pourriez-vous nous en dire la raison et nous donner un bon avis ?»« Très volontiers, » dit Hermann, « mais ce sera quand je reviendrai. » Il poursuivit son voyage et se trouva bientôt sur les rives d'un lac qu'il lui fallait traverser. Le passeur arriva avec un mauvais bateau, au fond duquel était une immense quantité de pièces d'or. Il lui en demanda une pour le porter sur l'autre bord. Mais Hermann lui avoua qu'il avait oublié sa bourse. « Entrez toujours dans ma barque, » dit l'homme, « car j'ai à vous consulter sur quelque chose qui m'embarrasse. » Ils prirent le large et le batelier lui parla ainsi. Il y a des siècles que de père en fils, ma famille gouverne cette misérable gondole. Quand mon père est mort, il m'a fait appeler, m'a remis ses avirons, et depuis ce temps, je conduis les gens d'une rive à l'autre. sans avoir pu recouvrer ma liberté. Je suis riche, et je voudrais courir le monde. Mais je suis attaché à ce bateau par une force invincible, car le lac ne peut rester sans passeur. Comment puis-je rompre ma chaîne ? Je vous l'expliquerai à mon retour, répondit le jeune homme. À peine débarqué, Hermann s'éloigna à grands pas afin d'arriver avant le soir à la caverne enchantée. Il songeait aux promesses qu'il avait faites sur sa route et aux moyens de les tenir. Cela lui paraissait facile, car le géant qu'il allait voir avait la science infuse, et rien au monde ne lui était inconnu. Restait à savoir s'il serait assez aimable pour répondre à ses questions et pour lui donner de ses cheveux par-dessus le marché. La nuit tombait lorsque le jeune homme arrivait au terme de son voyage. La caverne lui parut sinistre et mal tenue. Il y frappa pourtant d'une main assurée. « Entrez !» dit une voix rauque. Il obéit et reconnut, avec étonnement, plongé dans un vieux fauteuil, les pieds sur les chenets, la vieille qu'il avait secourue dans le bois. Elle se réjouit d'abord en l'apercevant, mais, après réflexion, elle s'écria avec épouvante. « Que venez-vous chercher ici, mon pauvre enfant ?»«
Les trois cheveux d'or du géant, » répondit le jeune homme.
« C'est une entreprise extravagante, » dit-elle en pâlissant. « Je vous engage à y renoncer. Le géant est mon propre fils. Et quoique je le traite avec bonté et que je fasse son ménage, il me bat comme plâtre, tant il a le caractère difficile. S'il vous aperçoit, le moins qu'il puisse vous arriver, c'est d'être croqué comme une rave.
« C'est fâcheux, » dit Hermann. « Mais je ne puis m'en retourner sans ces trois cheveux. Ma fortune et mon bonheur y sont attachés. »«
Vous êtes un obstiné, » dit la vieille. « Puisque vous voulez encourir la chance, je ferai pour vous ce que je pourrai. Cachez-vous dans la huche et couvrez-vous bien de farine. »«
Merci, ma bonne mère, » dit Hermann. En obéissant.
Mais je veux encore autre chose. Il faut que je sache pourquoi la fontaine de la ville est tarie, pourquoi l'arbre qui portait des pommes d'or n'a même plus de feuilles, et pourquoi le batelier du lac ne peut quitter sa place et retrouver sa liberté.
Ce sont trois questions importantes, dit la vieille. Écoutez bien ce que dira le géant quand je lui arracherai les cheveux d'or, et faites-en votre profit.
La nuit était tout à fait venue, quand un pas lourd ébranla la forêt et se rapprocha de la caverne. C'était le géant qui rentrait. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et s'installa brusquement auprès du feu. Mais tout à coup, il renifla, ses narines palpitèrent et il s'écria en passant sa langue sur ses lèvres. « Oh oh, je sens la chair fraîche. »«
Y pensez-vous ? » lui dit sa mère.
« Est-ce le moment de souper ? Vous savez bien que vous faites toujours un petit somme avant de vous mettre à table. »«
Je sens la chair fraîche, vous dis-je, à telles enseignes qu'elle doit être dans la huche. »
Hermann tremblait de tous ses membres. La vieille retint le géant qui voulait se lever.
« Eh bien oui, » dit-elle. « Il y a dans la huche une surprise que je veux vous faire, mais vous me la laisserez accommoder à ma fantaisie. Vous savez les sauces que je vous fais quand vous êtes raisonnable. »
« En attendant, mon mignon, dormez un peu, cela vous fera du bien. »
Le géant se calma devant ses cajoleries, et posant la tête sur les genoux de sa mère, il s'endormit profondément. Dès qu'il fut assoupi, elle lui arracha un premier cheveu d'or.
« Miséricorde, » dit-il en s'éveillant, « que me faites-vous ? »
« Vous m'excuserez, » répondit-elle. « J'étais agitée par un rêve et je vous ai frappée par mégarde. Il me semblait que la fontaine de la ville était tarie et qu'on m'en demandait la raison. »
Elle est bien simple, dit le géant. Un énorme crapaud s'est posé sur l'issue de la source et l'obstrue complètement. Ils n'ont qu'à l'enlever pour avoir de l'eau comme à l'ordinaire.
Il était à peine rendormi que sa mère lui arracha un second cheveu d'or. Il fit un soubresaut et faillit se mettre en colère.
« Holà ! » cria-t-il. « Avez-vous bientôt fini ? Vous me plumez comme un oison ! » !»«
Pardonnez-moi, mon bijou. Je n'ai pas été maîtresse d'un mouvement nerveux. Je rêvais que l'arbre aux pommes d'or du village voisin ne pouvait pousser ses premières feuilles, mais j'en cherchais le motif.
De quoi vous inquiétez-vous? Un serpent a fait son nid dans les racines de l'arbre, et c'est lui qui est cause de ce malheur. Si l'on parvient à s'en emparer, l'arbre fleurira comme autrefois. Mais vos discours et vos mouvements me fatiguent. Ne m'éveillez plus, ou je vous en ferai repentir.
La vieille ne bougea pas de longtemps, et le géant commença à ronfler comme une toupie d'Allemagne. Quand elle jugea le moment favorable, elle arracha vivement le troisième cheveu d'or. Le géant bondit aussitôt, et, transporté de fureur, il saisit un gros bâton pour en rosser sa ménagère. « Grâce, cria-t-elle, je me levais pour préparer votre souper et je vous ai tiré les cheveux sans le faire exprès. Mais voici un excellent coussin sur lequel vous pouvez reposer, sans crainte d'être dérangé désormais.
« À la bonne heure, » dit-il en s'apaisant. « Mais je n'ai plus envie de dormir. »
« Je vous ferai un conte pour vous bercer, » dit-elle, en préparant sa batterie de cuisine. Elle lui dit en effet l'histoire du batelier, condamné à vivre sur le lac sans pouvoir s'en éloigner.
« De quelle sornette me parlez-vous ? » dit le géant. « Ce batelier est un imbécile, et sa chaîne s'appelle l'habitude. » Il n'a qu'à placer ses avirons dans les mains des premiers passants. Et celui-ci sera forcé de prendre sa place.
En finissant, le géant s'assoupit de nouveau. Et la bonne vieille s'empressa de délivrer Hermann et de lui ouvrir la porte. Elle lui remit les trois cheveux d'or et lui rappela les réponses de son fils. Le jeune homme s'éloigna, mais après l'avoir remercié et embrassé de bon cœur. Il rencontra d'abord le batelier, qui lui fit traverser le lac, et lui dit « Mettez vos avirons dans la main d'un passager et vous serez libre. » Le batelier lui donna autant d'or qu'il en pouvait porter. Il dit plus loin, au jardinier « Tuez le serpent qui ronge les racines de votre arbre, et il portera des pommes d'or. » Les bons paysans lui donnèrent une charge de ces fruits précieux, tirés du meilleur endroit de leur magasin. Il dit enfin aux gardes de la ville « Enlevez le crapaud qui obstrue la source de la fontaine, et elle coulera comme auparavant. » Les magistrats reconnaissants le forcèrent à prendre avec lui un âne chargé d'or. C'est avec toutes ses richesses qu'il arriva au palais de son beau-père, qui fut quelque peu surpris de le revoir. « Vous êtes réellement, » lui dit-il, l'enfant chéri de la fortune. Je ne résiste plus à votre étoile. Je vous accepte pour gendre avec plaisir. Malgré ces bonnes paroles, le roi conservait un secret ressentiment contre le jeune homme et ne pouvait lui pardonner de réussir dans toutes ses entreprises. Comme il savait par cœur ses aventures, il résolut quelques mois plus tard, de voyager à son tour et de tenter la fortune dans les contrées qu'Hermann avait parcourues. Il arriva d'abord à la ville où son gendre s'était arrêté, et il voulut visiter la fontaine du marché qui remplissait de vastes bassins de ses flots limpides. Mais son pied glissa à l'improviste, il s'enfonça dans l'eau et disparut. On le retira, presque noyé, et il se hâta de quitter le pays. À quelque distance, il rencontra les beaux jardins où l'on cultivait l'arbre aux pommes d'or. Il était en plein rapport et les voyageurs curieux ne manquaient pas de venir l'admirer. Le roi s'y rendit comme les autres.
mais en passant sous ses rameaux, un fruit se détacha de la branche et lui tomba sur la tête. Le choc fut si rude qu'on emporta le monarque évanoui. Le lendemain, il poursuivit sa route et arriva au bord du lac, où il trouva le batelier de fort mauvaise humeur. Car depuis très longtemps, personne n'avait réclamé ses services. À peine fut-il entré dans la barque que le passeur lui mit ses avirons dans les mains, prit terre et se sauva, sans seulement lui dire adieu. Le roi s'étonna d'abord de cette fuite, puis il se prit à ramer machinalement, en hélant les passagers qui voulaient passer sur l'autre bord. Il rame toujours sur le lac, car personne n'est venu lui ôter le gouvernail des mains.